L'aventure intérieure, le rêve, le sommeil profond, notion de sur la douleur et la souffrance, et la méditation. Le rêve. Lorsque vous percevez le monde intérieur à l'extérieur, vous le baptisez rêve. Le monde du rêve existe, vous savez ce qu'est un rêve. Mais quelle en est la racine ? Votre être, n'est-ce pas ? Il vous faut bien être là pour percevoir le monde du rêve. Ce monde est très peuplé, il comprend un tas de personnages. Pensez-vous qu'ils sachent que leur monde est né de votre conscience, de votre être ? Ou pensez-vous pouvoir comprendre, en rêvant, que vous êtes l'âme même de ce rêve ? Pouvez-vous dire en rêvant « Je suis la source de tout ceci » Le visiteur. « Je vais m'efforcer de le faire. » Maharaj. « Non. Il n'est pas question de chercher une référence. Cela se produit spontanément. Il s'agit de comprendre qu'aucun effort n'est nécessaire. Réussir à faire parvenir l'information « Je suis la source » dans vos rêves ne peut vous aider en aucune façon. Il vous faut comprendre spontanément le principe qui régit cela. Tout comme le monde du rêve survient sans être sollicité et que vous l'observez, si vous tenez à avoir confirmation de ceci, retournez à vos rêves. Dans la conscience amoindrie du sommeil, se forme l'univers du rêve. Au sein du sommeil profond, plus de rêve. Au sein du sommeil profond, la mémoire d'être, le souvenir d'exister, ne sont plus là. Le « je suis » subsistera à l'état latent, mais soudain, le souvenir de sa présence apparaît et le rêve commence, se déploie au sein de cette conscience réduite. Similairement, la conscience du rêveur soudain se réveille. Et alors apparaît ce monde, qui est l'univers de rêve de l'état de veille. Vous dites alors « Oh, il s'agissait d'un rêve, rien de tout cela n'était vrai. » Mais ici, l'idée qu'il puisse s'agir encore d'un monde de rêve ne vous effleure pas. Avec quels matériaux avez-vous construit le monde du rêve ? Ce souvenir « je suis » est apparu. Et instantanément, son apparition a suscité le rêve. Vous avez vu là des montagnes vieilles de milliers d'années, des sages et des ermites centenaires. Ce rêve n'a duré qu'une fraction de seconde, et il a pourtant contenu la durée de ces montagnes et les 100 ans des sages. Comment pouvez-vous concilier ça ? Vous êtes dans ce rêve, au sommet d'une haute montagne. Tout à coup, dans votre lit, un insecte vous pique et vous vous réveillez. Où sont allées les montagnes, les sages ? Ce monde est né au sein de votre conscience, même s'il contient une grande quantité d'objets, immenses ou très anciens. Il s'est épanoui seulement dans l'espace de votre conscience. Il s'agit purement et simplement d'illusions, et il n'y a pas de mort pour ces êtres rêvés. Ils apparaissent et disparaissent. Ce monde-ci est le monde du rêve. Sont illusoires. Combien de temps conservent-ils leur réalité ? Tant que votre conscience est là. Quand elle disparaît, le monde disparaît. Pour vous permettre de mieux comprendre, prenons l'exemple du monde des rêves. Vous dormez profondément et tout à coup, vous avez le sentiment « je ». C'est lui qui crée le monde du rêve. Le sommeil profond. Tout ce qui est présent à l'état de veille se dissout dans le sommeil profond et retourne à l'état latent. Concept de douleur et souffrance. Le connaisseur de la conscience, lui, ne ressent pas la douleur. Et c'est uniquement parce que la conscience s'est identifiée au corps que ce corps ressent la douleur. Même si le corps est blessé, s'il est inconscient, il n'y a pas de douleur, car ce n'est pas le corps qui ressent la douleur. Quand il se produit une perturbation dans l'équilibre des cinq éléments entre eux, la maladie apparaît. Et maladie et douleur sont ressenties par la conscience. Tout comme à l'approche de l'hiver, il y a de moins en moins de chaleur, quand il y a de moins en moins d'identification avec le corps, la douleur est de moins en moins ressentie. Lorsqu'une absence totale d'identification est atteinte, cela peut aller jusqu'à plonger sa main dans le feu sans ressentir la moindre douleur. La brûlure du feu se produira, mais la douleur ne sera pas ressentie. Concept à propos du mental, du corps, de la vie, de la mort, du vécu, de la destinée, du temps, de ce qui arrive. Je reprends. Cette conscience cérébrale a compris et le désir a disparu. Elle est vierge et ne peut plus comprendre parce que tout ce qui relève du cérébral ne peut que reconnaître ce qui est déjà connu. Alors que votre état véritable est inconnu. Qu'est-ce que l'expérience ? L'expérience d'être, celui qui observe cet état d'être et de non-être, est l'état réel. Visiteur, qu'est-ce que le témoin ? Est-ce le mental ou quelque chose au-delà du mental ? Maharaj, c'est le connaissant du mental. Visiteur, si je dis « Je suis ». Est-ce le mental qui parle ? Maharaj. L'être s'exprime par l'intermédiaire du mental avec les mots « Je suis ». La compréhension dépend de la perception corporelle. Tout le monde reçoit la connaissance par ce biais, mais le comportement de chacun diffère de celui des autres. La lumière de la conscience traverse le film de votre mémoire et projette des images dans votre cerveau. À cause de l'état défectueux et confus de ce dernier, ce que vous percevez est déformé et teinté par des sentiments de sympathie et d'antipathie. Mettez de l'ordre dans vos pensées et débarrassez-les des colorations émotionnelles. Et vous verrez les hommes et les choses tels qu'ils sont, avec lucidité et charité. Le vent du désir trouble le mental, et le moi, qui n'est qu'une réflexion du soi dans le mental, apparaît changeant. Toute expérience est nécessairement transitoire, mais le fondement de l'expérience est immuable. Rien que vous puissiez appeler événement ne dure, mais certains d'entre eux purifient le mental et d'autres le ternissent. Les moments d'intuition profonde, d'amour universel purifie le mental. Alors que les désirs et les craintes, les envies et les colères, les croyances aveugles et l'arrogance intellectuelle polluent et ternissent la psyché. Quand on maintient son mental éloigné de ses préoccupations, il devient paisible. Si vous ne troublez pas cette tranquillité et que vous demeurez en elle, vous découvrirez qu'elle est pénétrée d'une lumière et d'un amour que vous n'avez jamais encore connus. Et néanmoins, vous la reconnaîtrez immédiatement pour votre véritable nature. Quand vous serez passé par cette expérience, vous ne serez plus jamais le même homme. Le mental qui ignore toute règle peut briser cette paix et obscurcir cette vision. Mais leur retour est certain, à condition que l'effort soit soutenu jusqu'au jour où tous les liens étant rompus, les illusions et les attachements cessent et la vie devient supérieurement concentrée dans le présent. Vous êtes au-delà du mental, mais vous connaissez par le mental. Il est évident que l'étendue, la profondeur et la nature de la connaissance dépendent de l'instrument que vous utilisez. Améliorez votre instrument et vous améliorerez votre connaissance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mental paisible. Tout le reste suivra à point nommé, une fois votre mental apaisé. Comme le soleil à l'aube met le monde en activité, ainsi l'éveil à soi-même opère un changement dans le mental. à la lumière de la conscience de soi, calme et stable, des énergies intérieures s'éveillent et provoquent des miracles sans aucun effort de votre part. Parvenez à comprendre que vous êtes destiné à l'éveil. Coopérez avec votre destin. N'allez pas contre lui, ne le contrecarrez pas. Permettez-lui de s'accomplir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prêter attention aux obstacles que crée votre mental stupide. Le bon usage du mental, c'est de le mettre au service de l'amour, de la vie, de la vérité et de la beauté. Si vous voulez connaître votre nature vraie, il faut que vous soyez en permanence présent à votre mental, jusqu'à ce que le secret de votre être vous soit dévoilé. Détachez-vous de tout ce qui agite votre mental. Renoncez à ce qui trouble sa paix. Si vous voulez la paix, méritez-la. Avant qu'un mot ne devienne un vocable émis oralement, il faut que ce soit une pensée, un mouvement dans la conscience. Et ainsi, la source du mot, tout comme celle de la pensée, est la conscience. Lorsque vous aurez compris ceci, vous comprendrez aussi que le silence parfait ne peut exister que dans l'absence de toute pensée et que, lorsque cesse la pensée et que la conceptualisation et l'objectivation sont également suspendues. Lorsque la conceptualisation cesse, l'identité qui constitue la base de la conceptualisation ne peut persister. Et dans cette absence d'identité, il n'existe aucun attachement. Excusez-moi, je reprends le dernier paragraphe, j'ai fait une erreur. Avant qu'un mot ne devienne un vocable émis oralement, il faut que ce soit une pensée, un mouvement, dans la conscience, et ainsi, la source du mot, tout comme celle de la pensée, est la conscience. Lorsque vous aurez compris ceci, vous comprendrez aussi que le silence parfait ne peut exister que dans l'absence de toute pensée, et que, lorsque cesse la pensée, la conceptualisation et l'objectivation sont également suspendues. Lorsque la conceptualisation cesse, l'identité qui constitue la base de la conceptualisation ne peut persister. Et dans cette absence d'identité, il n'existe aucun attachement. Le temps, bien que limité, est infini. L'éternité se situe dans l'instant de fracture du maintenant. Nous ne le percevons pas parce que notre mental fait sans cesse la navette entre le passé et l'avenir. Jamais il ne s'arrête pour se concentrer sur le maintenant. Mais cela peut être réalisé avec une facilité relative si votre intérêt est éveillé. Se trahir soi-même est quelque chose de grave. Le remède en est la lucidité et l'intégrité de la pensée. Essayez de comprendre que vous vivez dans un monde d'illusions. Étudiez-les et mettez leurs racines à nu. Cette simple tentative vous rendra sérieux, car une entreprise juste vous donne la béatitude. Une fois que vous êtes fermement établi dans le maintenant, vous n'avez aucun autre endroit où aller. Ce que vous êtes, intemporellement, vous l'exprimez éternellement. Les états d'esprit sont dans le mental et ils n'ont pas d'importance. Apprenez à ne plus être fasciné par le contenu de votre conscience. Quand vous atteindrez les couches profondes de votre être authentique, vous découvrirez que l'activité de surface de votre mental vous affecte très peu. Le mental n'existe pas en tant que chose. Il n'y a que des idées. Et certaines sont fausses. Rejetez les idées fausses parce qu'elles sont fausses et qu'elles occultent la vision de vous-même. Vous ne pouvez pas être vivant puisque vous êtes la vie même. C'est la personne que vous vous imaginez être qui souffre, pas vous. Dissolvez-la dans la présence, car ce n'est qu'un amas de souvenirs et d'habitudes. Tout changement n'affecte que le mental. Pour être ce que vous êtes, vous devez aller au-delà du mental, dans votre être réel. Ce qu'est ce mental que vous laissez derrière n'est pas important. Pour vous, pourvu que vous le laissiez pour de bon. Cela non plus n'est pas possible sans la réalisation de soi. Tout changement n'affecte que le mental. Pour être ce que vous êtes, vous devez aller au-delà du mental. Ce qu'est ce mental que vous laissez derrière n'est pas important pourvu que vous le laissiez pour de bon. Cela non plus n'est pas possible sans la réalisation de soi. Visiteur, qu'est-ce qui vient en premier ? L'abandon du mental ou la réalisation de soi ? Maharaj, sans contredit, la réalisation vient la première. Le mental ne peut pas se dépasser lui-même, il doit exploser. La charge explosive vient du réel. Mais il est fortement conseillé d'avoir un mental qui y soit préparé. Il est toujours possible que la peur soit la cause de retard jusqu'à ce qu'une nouvelle occasion se présente. En pratique, une situation doit se manifester où tous les facteurs nécessaires à la réalisation de soi sont présents. Regardez vos pensées comme vous regarderiez le trafic de la rue. Les gens vont et viennent. Vous enregistrez, mais sans réponse. Au début, ce n'est pas facile. Mais avec de la pratique, vous vous apercevrez que votre mental peut fonctionner sur plusieurs plans à la fois et que vous pouvez être conscient de tous ces plans. Ce n'est que quand vous portez un intérêt particulier à un plan précis que votre attention s'y laisse prendre et que les autres plans sont obscurcis. Mais même alors, ces autres plans continuent de fonctionner, mais hors du champ de la conscience. Ne vous battez pas contre vos souvenirs et vos pensées. Essayez seulement d'inclure dans le champ de votre attention les autres questions plus importantes, telles que « Qui suis-je ? Comment se fait-il que je sois né ? D'où vient cet univers qui m'entoure ? Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est transitoire ?» Nul souvenir ne persiste si vous ne leur attachez aucun intérêt. C'est l'attachement émotionnel qui perpétue l'esclavage. Vous êtes toujours à la recherche du plaisir, à vouloir éviter la souffrance, toujours à la poursuite de la paix et du bonheur. Ne voyez-vous pas que c'est la quête même du bonheur qui vous rend misérable ? Essayez l'autre voie. Indifférent à la souffrance et au plaisir, ne demandant rien, ne refusant rien, donnez une totale attention au plan où le « je suis » est intemporellement présent. Très vite, vous réaliserez que la paix et le bonheur sont inhérents à votre nature et que les perturbations viennent du fait que vous les recherchez au travers de certaines filières. Évitez les perturbations, c'est tout. Il est inutile de chercher. Vous ne chercheriez pas ce que vous avez déjà. Vous êtes Dieu, la réalité suprême. Pour commencer, faites-moi confiance. Ayez confiance en votre maître. Cela vous permettra de faire le premier pas. Et puis votre confiance trouvera sa justification dans votre propre expérience. Dans la vie, la confiance de départ est essentielle à toute démarche. Sans elle, on fait peu de choses. Toute entreprise est un acte de confiance. Même manger votre pain quotidien est un acte de confiance. En vous souvenant de tout ce que je vous ai dit, vous réussirez en tout. Je vous le répète à nouveau. Vous êtes la réalité omniprésente, transcendant tout. Conduisez-vous en conséquence. Pensez, sentez, agissez en harmonie avec le tout. Et très vite, l'expérience réelle de ce que je vous dis se fera jour en vous. Aucun effort n'est nécessaire. Ayez la foi, prenez appui sur elle. Je vous en prie, rendez-vous compte que je n'attends rien de vous. Je parle dans votre intérêt. Parce que vous vous aimez par-dessus tout. Vous voulez pour vous-même la sécurité et le bonheur. N'en ayez pas honte, ne liez pas. Il est naturel et bon que vous vous aimiez. Mais il faudrait que vous sachiez exactement ce que vous aimez. Ce n'est pas le corps, c'est la vie que vous aimez. Percevoir, sentir, penser, agir, aimer, lutter. Cette vie qui est tout, réalisez-la dans sa totalité, au-delà de toute division et de toute limitation. Et tous vos désirs se fondront en elle, car le plus grand contient le plus petit. Trouvez-vous donc, parce qu'en vous trouvant, vous trouvez tout. Tout le monde est heureux d'exister, mais peu en savent la plénitude. Vous parviendrez à la connaître en demeurant dans le mental, dans le « je suis », « je sais », « j'aime », avec la volonté de pénétrer le sens le plus profond de ces mots. Vous voudriez quelque chose comme une extase perpétuelle. Les extases viennent et puis s'en vont par nécessité, parce que le cerveau humain ne peut pas en supporter la tension longtemps. Une extase prolongée consumerait votre cerveau à moins qu'il ne soit extrêmement pur et subtil. Dans la nature, rien ne dure. Tout y est pulsation, apparition et disparition. Le cœur, la respiration, la digestion, le sommeil, la veille, la naissance, la mort, tout va et vient comme des vagues. Le rythme, la périodicité, l'alternance harmonieuse des extrêmes est la règle. Il est inutile de se rebeller contre le mode même de la vie. Si vous cherchez l'immuable, allez au-delà de l'expérience. Quand je vous dis « remémorez-vous tout le temps je suis », je veux dire « revenez-y constamment ». Aucune pensée singulière ne peut être l'état naturel du mental, seulement le silence. Non pas l'idée de silence, mais le silence même. Quand le mental est dans son état naturel, il revient spontanément au silence après chaque expérience. Ou, plus exactement, chaque expérience se produit sur un arrière-plan de silence. Ce que vous avez appris ici devient la graine. Vous pourrez l'oublier en apparence, mais elle vivra. Et à la bonne saison, elle germera et grandira. Elle donnera des fleurs et des fruits. Vous n'avez rien à faire. Seulement ne pas y mettre obstacle. Quand la personne réalise sa non-existence en tant qu'être séparé du soi, et que le soi considère la personne comme une expression de lui-même, alors naissent la paix et le silence de l'état non manifesté. En réalité, les trois ne font qu'un. Le soi et l'absolu sont inséparables, alors que la personne est le mécanisme de la sensation, de la sensibilité et de la pensée, basée sur le corps qui est constitué des cinq éléments et nourri par eux. Un événement ne devient une expérience que si je suis émotionnellement concerné. Le mental dissimule la réalité sans le savoir. Le mental étant composé d'images et de mots, il en est de même de toutes les réflexions dans le mental. Il submerge la réalité sous le verbalisme. Puis après, il s'en plaint. Le mental apparaît-il dans le corps ou le corps dans le mental? Il y a certainement un mental qui conçoit l'idée « je suis le corps ». Un corps sans mental ne peut pas être mon corps. Quand le mental est vacant, mon corps est toujours absent. Il l'est également quand le mental est absorbé par des pensées ou par des sensations. Quand vous aurez compris que le corps dépend du mental, qui dépend de la conscience, et que la conscience dépend de la présence, et que ce n'est pas le contraire, vous aurez votre réponse à la question de savoir s'il faut attendre la mort pour la réalisation de soi. Ce n'est pas qu'il faut que vous soyez d'abord délivré de l'idée « je suis le corps » pour après réaliser le soi. C'est absolument l'inverse. Vous vous attachez au faux parce que vous ne connaissez pas la vérité. C'est la ferveur et non la perfection qui est la condition préalable à la réalisation de soi. Les vertus et les pouvoirs viennent avec la réalisation et non avant. Donc, ne vous inquiétez pas de l'intellect. Employez-le dans la mesure où il est utile à l'accomplissement de vos tâches quotidiennes, pas au-delà. Celui qui a vraiment compris observe simplement ou annule les expériences obtenues par l'intermédiaire de l'intellect comme ne possédant aucune substance. Toute cette tragicomédie du monde relève de l'intellect. Une fois assimilé que vous n'êtes pas l'intellect, comment pourriez-vous être concerné ? Vous avez assumé ce corps, le considérant comme un vous-même. Voilà l'erreur. Et cela aussi, d'ailleurs, est superficiel, car vous ne savez même pas ce qu'il se passe vraiment dans votre corps. Des échantillons de toutes les fonctions en action dans ce monde immense fonctionnent également dans le corps. Observez-le et soyez le simple observateur du flux des convictions, des pensées et des émotions. La force vitale se manifestant en pensée et en mots est l'intellect. C'est donc cette force vitale, intellect, qui est le principe agissant. L'être est le Dieu témoin de l'activité de la force vitale et de l'intellect. Il n'intervient pas, il n'a aucune interférence, il assiste simplement à ce qui arrive. La diversité, sans séparation, est tout ce à quoi peut atteindre le mental. Le mental a soif d'expérience, dont il prend le souvenir pour la connaissance. Mais le mental veut des formulations et des définitions. Il est toujours avide de réduire la réalité à une forme verbale. Il veut une idée de toute chose parce que, sans idée, il n'existe pas. La réalité est seule par essence, mais le mental ne veut pas la laisser seule et s'occupe à la place du non-réel. Et c'est cependant tout ce que peut faire le mental, découvrir le non-réel comme tel. Il n'y a pas d'état tel que la vision du réel. Qui est dans le réel, pour voir quoi? Vous ne pouvez qu'être réel, ce que de toute façon vous êtes. Le problème n'est que mental. Abandonnez toutes les idées fausses, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'idées justes, il n'y en a pas. Rien ne meurt. Le corps n'est qu'imaginé, il n'existe pas. Le temps sera venu à sa fin. C'est ce qu'on appelle la grande mort, la mort du temps. L'immortalité est la libération de la sensation « je suis ». Cependant, ce n'est pas l'extinction. Au contraire, c'est un état infiniment plus réel, plus conscient, plus heureux que vous ne pouvez le concevoir. Seulement, il n'y a plus conscience de soi. Visiteur, pourquoi la grande mort du mental coïncide-t-elle avec la petite mort du corps ? Maharaj, elle ne coïncide pas. Vous pouvez mourir d'une centaine de morts sans rupture dans le tumulte du mental. Ou vous pouvez conserver votre corps et ne mourir que dans le mental. La mort du mental est la naissance de la sagesse. De même, il faut retourner à son état originel avant qu'un nouveau nom et une nouvelle forme puissent émerger. Tout ce que vous avez acquis, y compris le corps mental, disparaîtra. Isolez-vous de votre mental, c'est tout. Ne le suivez pas. Après tout, il n'existe pas un mental qui serait distinct des pensées qui vont et viennent en obéissant à leurs propres lois et non aux vôtres. Elles vous dominent que parce que vous vous y intéressez. Le corps et le mental, ça ne concerne pas le soi. La totalité de toutes les projections mentales est ce qu'on appelle la grande illusion. Vous avez un mental qui se déploie dans le temps. Les choses vous arrivent les unes après les autres et le souvenir en reste. Le problème ne se pose que lorsque la mémoire des douleurs et des plaisirs passés, qui est essentielle à toute vie organique, demeure comme un réflexe, un comportement dominant. Ce réflexe prend la forme du « je » et plie le corps et le mental à ses buts qui sont invariablement la recherche du plaisir et la fuite devant la douleur. Quand vous voyez le « je » pour ce qu'il est, un faisceau de désir et de peur, et le sentiment du « mien » comme englobant toutes les choses et tous les gens nécessaires à la poursuite du plaisir et à la fuite devant la douleur. Vous vous apercevez que le moi et le mien sont des idées fausses qui n'ont pas de fondement dans la réalité. Créées par le mental, elles règnent sur lui aussi longtemps qu'il les considère comme vraies. Quand elles sont mises en question, elles se dissolvent. N'ayant en eux-mêmes aucune existence, le « je » et le « mien » ont besoin d'un support qu'ils trouvent dans le corps. Le corps devient un point de référence. Évidemment, il faut une certaine mémoire pour identifier le corps et le guider, et cette mémoire restera. Mais tout attachement au corps en tant que tel a disparu. Il n'est plus le terrain nourricier des désirs et des peurs. Bon, continuez d'écouter un moment ces dialogues. Quoi qu'il se passe, continuez d'écouter. Si vous dites « j'ai tout bien compris », vous commettez une première erreur. L'espace est alors créé et la conscience, qui en fait est non individuelle, devient une entité dont les limites sont le corps mental et vous avez l'impression que la conscience est limitée au corps et au mental. Tandis que si vous acceptez que la conscience soit non individuelle, il n'y a pas de problème. Il y a deux plans à prendre en considération, le physique, celui des faits, et le mental, celui des idées. L'illusion produit la vie parce que sans les formes, elle ne pourrait pas fonctionner. Avoir le sentiment d'être un individu est un conditionnement. Celui qui veut le casser, le conditionnement, est imaginaire. Comment pourriez-vous détruire un ego inexistant ? Le principe de compréhension s'exprime par le mental. La conscience universelle est, depuis toujours, son pouvoir aussi. Son pouvoir de création a donné naissance au monde. Il a produit la substance cosmique et l'esprit cosmique, et son âme est la conscience individuelle. La conscience universelle est l'esprit dynamique, manifeste, spontané. Elle n'a pas de visage, elle est omnipénétrante. La force vitale universelle pénètre tout et elle est sans personnalité ni individualité. Vous êtes avant que le mental soit. N'accordez pas d'importance aux pensées, mais à la conscience. Les pensées continueront à se lever à cause du souffle vital. Vous pouvez faire usage de n'importe quelle pensée qui vous est utile. Le mental crée l'asservissement, mais il libère également. Supposons qu'aujourd'hui, je ne sois pas apte à réfléchir, que mon mental ne soit pas très clair. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'essence de nourriture que j'ai absorbée aujourd'hui est plutôt lourde. La combustion ne se faisant pas bien, ma faculté de penser est engourdie, elle aussi. Cette faculté mentale procède également des essences de nourriture. Et je ne suis pas les essences de nourriture. Ce qui vous donne un sentiment de bonheur et de satisfaction est le mérite, et ce qui vous perturbe ou vous laisse insatisfait est le péché. Ne parlez pas à partir du point de vue de l'individu, de l'être humain, de l'illusion. Quand avez-vous appris l'existence du mérite et du péché ? Après avoir acquis un concept, pas avant. Le corps est une poupée qui a été confectionnée avec le matériau brut de l'univers manifesté. Il est en changement perpétuel et se dissout peu à peu dans l'univers manifesté. Une fois épuisé, il se transforme entièrement en espace. Après quoi, il n'y a plus d'intellect. L'intelligence n'existe que s'il y a corps. Puis, le corps se forme à nouveau à partir de l'espace. Au cours du processus de formation du corps, l'intelligence n'existe pas. Ce que j'essaie de faire est de rétablir cette idée de concept. Quand l'être, le « je connais » s'éteint et qu'il se mêle à la conscience universelle, que désignez-vous comme graine pour une autre naissance ? Où est l'individualité? Où est la graine de la renaissance? Par conséquent, qu'est-ce qui va renaître? Les créations sont issues du principe plus subtil que l'espace. Cet antique principe naît lui-même sous de multiples formes. Ces formes sont les incarnations. Il n'y a pas d'autres incarnations. Je vous mets devant la connaissance des faits. Tout ce que vous atteignez vous quittera. Avez-vous fait l'expérience de cette mort et de cette renaissance dont vous avez lu et dont vous avez entendu parler? Vos idées sont celles d'autres personnes. Découvrez par vous-même. N'acceptez pas les réponses faites par d'autres. Vous êtes capable de penser par vous-même. Réfléchissez sur le sujet et découvrez ce que vous êtes. L'existence des trois états, la veille, le rêve et le sommeil profond. Le fait que vous êtes ces trois états. Quand ils disparaissent, la mémoire disparaît avec eux. Par conséquent, la question de la réincarnation se pose-t-elle? Une fois le corps mort, il se décompose, quantité de vers se forme. Il se forme à cause de la présence de l'essence de nourriture, car c'est d'elle qu'émane la vie. La vie personnelle est une affaire personnelle. Le karma n'est qu'un réservoir d'énergie non dépensée, de désirs insatisfaits et de peurs incomprises. Ce réservoir est continuellement rempli par de nouveaux désirs et de nouvelles peurs. Mais il n'est pas obligatoire qu'il en soit ainsi éternellement. Apprenez à connaître la cause originelle de vos peurs, l'aliénation de vous-même et de vos désirs, l'aspiration vers le soi. Et alors, votre karma s'évanouira comme un rêve. La vie se perpétue entre la terre et les cieux. Rien n'en est affecté. Seuls les corps grandissent et déclinent. Si nous examinons la Trinité mental, soi, esprit, elle devient unicité. Ce ne sont que des modes de l'expérience. L'attachement, le mental, le détachement, le soi, et la transcendance, l'esprit. Le détachement ne vient qu'après que vous soyez libre de l'amour du corps. Leur destinée est ce qui arrive. Il n'est pas question de déjouer le destin. Voulez-vous dire, quand vous parlez de destinée, que la vie de tous les individus est déterminée dès la naissance? Mais quelle étrange idée! S'il en était ainsi, la puissance déterminante veillerait à ce que nul ne souffre. Le futur affecte autant le présent que le passé. Un mort ne connaît ni je suis, ni j'ai été. Il est donc impossible d'enregistrer l'état d'un mort, et cela, pas plus pour nous que pour le décédé. La conscience se continue et en même temps, elle ne se continue pas. Tout dépend du point de vue. Qu'est-ce que l'identité, après tout? La continuité dans la mémoire? Peut-on parler d'identité sans mémoire? Ce que la personne croit être avant de mourir, elle continue à l'être après la mort. L'image qu'elle se faisait d'elle-même survit. Visiteurs, certaines personnes sont vraiment témoins de leur vie passée. Comment est-ce possible, Maharaj? Parce qu'elles le croient. Il en est de leur vision comme de promesses des politiciens, ce ne sont que des mots. Tout concept structure votre futur. C'est pourquoi n'ayez aucun concept. Cette expression qu'est le monde est le produit de la conscience élémentaire quintuple. C'est à la conscience qu'il appartient de s'occuper du monde manifesté. Le monde est l'expression de votre conscience. Mais vous n'êtes pas la conscience. Comprenez ce principe et menez votre vie comme vous l'entendez. Quand le mental sera entièrement purifié, il veillera à tout. Rien ne se passe, rien ne meurt, il n'est pas question de renaissance. Le mental n'est qu'une accumulation des pensées qui existent dans la manifestation. Vos activités dépendent toutes du mental. et le mental dépend de vos souvenirs et de tout ce que vos oreilles ont entendu. Nous enregistrons tout ce qui se passe dans le monde et le considérons du point de vue personnel, appliquant nos concepts personnels à ces choses. Et comme la conscience du corps mental s'imprègne des faits se produisant dans le monde, nous continuons d'attribuer à la conscience « je suis » des naissances antérieures, une naissance, un karma, et ainsi de suite. Depuis l'apparition de l'être en vous, tout acte accompli à l'aide de cette connaissance est entièrement le résultat de l'action des cinq éléments, tant en vous qu'en toute connaissance que vous avez obtenue grâce à ces éléments. « Je suis » précède la connaissance « je suis ». Mais ce qui agit au moyen de la connaissance « je suis » en ce moment, la personnalité que vous croyez être, est le résultat de l'essence de nourriture, laquelle est le produit des cinq éléments. À moins que vous ne soyez parfaitement silencieux et vous affermissiez dans la connaissance « je suis », le produit des activités du monde se sépare de « je suis ». Vous devez d'abord vous affermir dans la connaissance « je suis ». Le « je suis » qui apparaît en vous à votre réveil est le témoin. Mais aussitôt après, la manifestation en totalité entre dans le champ du « je suis », qui devient alors témoin de la manifestation tout entière. Au sortir du sommeil profond, la conscience « je suis » qui pointe en vous est ce qu'on appelle le témoin. Avant cette seconde, vous ignoriez être. Ni le témoin, ni la connaissance « je suis » n'existaient. La preuve de votre existence vous est donnée à l'instant même où la conscience apparaît en vous. Mais sitôt cette preuve obtenue, la conscience s'empare de votre corps. Dès l'instant où le « je suis » prend possession du corps, son comportement devient tributaire des pensées qui se lèvent dans la manifestation. C'est ce qu'on appelle le mental ou les tendances. La conscience signifie le monde, la manifestation, le « je suis », l'être. Elle a toutes les couleurs, elle est vaste, profuse, infinie. La conception est l'instant où, sans le savoir, spontanément, nous photographions nos parents en plus de la situation mondiale. Il n'y a que l'identification corporelle qui vous donne le sentiment d'être deux. Le monde est créé pour l'être. Ce que vous ressentez est la peur de la mort. Vous n'avez pas véritablement fait l'expérience de la mort. Tout comme vous n'avez pas fait l'expérience de la naissance, ainsi, vous n'avez pas fait celle de la mort. Vous n'avez que l'expérience de la peur. La mort est repos. Visiteur, avons-nous l'expérience de l'agonie ? Maharaj, pas celle de la mort. Tout au plus, vous, majuscule, avez pu voir un cadavre étendu là-bas et l'avoir observé d'ici. Le « je suis » ne s'éteint pas tout de suite. Il subsiste un certain temps sous la forme du corps subtil. La forme physique n'est plus, mais les désirs logés dans le corps subtil ne sont pas encore dissous. La conscience demeure jusqu'à l'extinction de la dernière particule d'essence de nourriture. L'idée même de quelque chose se perpétuant vie après vie est fausse. Toute action est exécutée par le souffle vital dont le langage a pour nom pensée. La récitation d'un mantra ou d'un japa est faite par le souffle vital et l'être n'est que le simple témoin des actions du souffle vital. Ce n'est pas le mental, mais le souffle vital qui vous donne le sentiment d'être une entité séparée. C'est la force vitale qui fait naître les pensées. Sans elle, il n'y a pas de mental. Le souffle fait naître les pensées dans le monde. Vous ne faites que les observer. Qui est l'auteur de toutes les inventions merveilleuses du monde contemporain dans les domaines mécaniques et techniques ? L'enfant avait en lui la potentialité de toutes ses connaissances. La matière dont il a eu besoin lui a été entièrement fournie par les cinq éléments. Mais ce qu'il a réalisé grâce à cette matière est tel que vous le voyez aujourd'hui dans le monde. L'ignorance qui est née de la matrice maternelle donne naissance à tellement de connaissances. À la conception, votre être est à l'état latent, mais c'est sa présence qui assure le développement du fœtus. Des gens extrêmement intelligents viennent ici et me posent des questions. Je leur réponds, mais ils ne sont pas d'accord avec mes réponses. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent sur la base de leur identification au corps mental et que je leur réponds sans être identifié à la forme. Par conséquent, comment me comprendraient-ils ? Comment la question et la réponse pourraient-elles s'accorder ? Qui pose les questions ? Celui qui s'est évalué en fonction de l'état temporel basé sur la naissance du corps physique, qui est un produit de l'imagination, rien qu'un paquet de souvenirs, d'habitudes et d'imagination. Moi, je le sais, pas eux. Vous estimez être le corps, bien qu'il n'ait aucune substance, et que puisse disparaître à tout instant. Pourtant, vous basant sur lui, vous essayez d'atteindre des objectifs et de faire des acquisitions, et ainsi de suite. Il n'y a que ce qui fut avant la naissance du corps qui restera après la mort du corps. Le jour où le corps meurt, en ce jour final, vous perdez la mémoire d'avoir existé. Quoi que vous ayez assimilé, cela n'est que divertissement. Tout disparaîtra. Ce qu'on dit qui arrive est une illusion. Rien n'arrive vraiment, étant donné que le concept de base, l'être, est en soi une illusion. Lorsque le corps meurt, il va se mêler aux cinq éléments. Le souffle vital se mélange à l'air et à la conscience. Lorsque le corps meurt, il va se mêler aux cinq éléments. Le souffle vital se mélange à l'air et la conscience à la conscience universelle. Là-dessus, la conscience qui était soumise aux trois attributs inertie, énergie, harmonie dans le corps se libère. L'idée de renaissance est un concept car la renaissance implique forcément la mort. Qu'est-ce qui meurt ? Rien. Qui va renaître ? Personne n'est né. Mais une fois que le corps s'est mêlé aux cinq éléments, le souffle à l'air et la conscience à la conscience universelle, les concepts perdent leur base, leur support. Par conséquent, où iront-ils ? Tant qu'ils durent, le rêve a une existence temporaire. C'est le désir que vous avez de vous y accrocher qui crée le problème. Laissez-le partir. Cessez d'imaginer que le rêve est vôtre. Laissez le rêve se dérouler jusqu'à sa conclusion naturelle. Vous ne pouvez l'aider, mais vous pouvez voir le rêve comme tel, lui refuser l'empreinte de la réalité. Quand vous considérez votre rêve comme un rêve, vous vous éveillerez. Mais votre rêve même ne m'intéresse pas. Il me suffit de savoir que vous devez vous réveiller. Il n'est pas nécessaire que vous apportiez un dénouement à votre rêve ou que vous le rendiez noble, heureux ou beau. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de réaliser que vous rêvez. Tous les extraits que vous venez d'entendre et qui appartiennent à un fichier nommé « L'aventure intérieure » a été créé à partir d'extraits prélevés dans les livres publiés des entretiens de Sri Nisargadatta Maharaja. Ces livres sont « Je suis » avant 1973, « Ni ceci ni cela » de 1978 à 1979, « Soi » de 1978, 1979 et 1980, « Conscience et absolue » de 1980 à 1981, « À la source de la conscience » de 1980 à 1981.